Je m'appelle Thierry Pragnot, je suis un ancien adjudant-chef du GIGN où j'ai passé 18 années. Aujourd'hui, je vous présente mon histoire pour Vétérans de France. Je me présente, hein, Thierry Pragnot, j'ai 67 ans et j'ai fait 18 ans au GIGN, mais avant, j'ai été civil aussi. Je n'étais pas destiné du tout à rentrer en gendarmerie puisque j'ai un CAP de mécanique, donc ça n'a strictement rien à voir. Mais bon, déjà dans ma tête, j'aimais bien m'occuper des autres, j'aimais bien faire ce qui était juste. D'ailleurs, je m'étais engagé chez les pompiers volontaires à l'âge de 16 ans. Et à l'issue, je suis parti faire mon régiment, hein, comme tout le monde à l'époque. Et ensuite, en rentrant, j'ai décidé d'entrer en gendarmerie. Un petit peu poussé par mon papa, mon défunt papa qui n'est plus là bien. C'est dommage. Et alors, j'ai fait mon école gendarmerie à Charenton, qui n'existe plus maintenant, hein, au Fort Charenton, qui est à Maison-Alfort, où était basé le GIGN, mais il n'était pas connu à l'époque encore. Et je me souviens, pendant les cours, on voyait des hélicoptères avec des araignées qui descendaient au bout des cordes. Là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? Et en se renseignant un petit peu, le GIGN était en deux parties. Il y avait une partie GIGN 1 sur Mont-de-Marsan, et une deuxième équipe qui était le GIGN 4, GIGN 4 à Maison-Alfort. Et en 76, Proto a décidé de regrouper les deux équipes pour former le GIGN 1, le GIGN actuel, quoi, à Maison-Alfort. Donc c'est ces gens-là qu'on voyait s'entraîner, courir, descendre dans l'hélicoptère, escalader les tours et tout, c'était impressionnant, quoi. Et à l'école gendarmerie de Charenton, il y avait une seule compagnie, et l'effectif de la compagnie, il y avait systématiquement 30% de l'effectif qui était muté à la garde républicaine, d'office. Donc en rentrant, on savait déjà qu'on était garde républicain. On m'a dit, toi, t'es grand, tireur au premier régiment présidentiel à l'époque de Giscard d'Estaing, où j'ai commencé à faire du sport avec des copains. Et il y a un moment où Giscard d'Estaing avait décidé de créer des équipes commando. Alors le premier régiment était en deux parties. Il y en a une partie où j'étais moi avec Kellerman, dans le 13e arrondissement, et une deuxième qui était sur Nanterre. Alors les deux équipes ont été testées, ça faisait 20 gars à peu près. Puis là, on a fait des entraînements un peu plus poussés, à Cormeillon-Parisy, et ainsi de suite. Et là, on a été breveté para, le vrai brevet, à l'époque. Maintenant, ils font que 4 sauts, je crois. À l'époque, c'était 6 sauts, avec l'étoile dessous. C'est le vrai brevet. Là, maintenant, ils donnent le brevet sans l'étoile. C'est-à-dire que les gars ne font que 4 sauts, et ce qu'on appelle le brevet fantoche, en fait. C'est pas le vrai brevet. Alors j'avais un tonton qui était gendarme, adjudant-chef, comme moi, qui est décédé maintenant, le pauvre. Mon papa n'était pas dans l'armée, il a fait les cadets de l'armée, mais il est parti très tôt, j'ai jamais eu l'occasion de parler de ça avec lui, de connaître son cursus, de savoir ce qu'il a fait. Je savais qu'il avait fait plein de choses, mais j'ai jamais pu en discuter avec lui. Non, dans ma famille, j'avais un oncle par alliance qui était lieutenant-colonel dans l'armée, mais voilà quoi, j'étais pas destiné à partir là-dessus quoi. Et je ne regrette pas du tout. Donc j'ai fait mes périodes de 3 ans à la garde républicaine, où on a fait plein de choses, c'était hyper intéressant, beaucoup de sport. Et au cours de mes 3 années au GIGN, j'ai eu l'occasion de participer à des stages qu'organisait le capitaine Baril à l'époque, numéro 2 du GIGN. Et c'est là que j'ai appris un petit peu à connaître les gens, discuter un peu avec eux. Et comme je finissais bien au niveau des stages, le capitaine Baril m'a dit un jour, mais pourquoi vous n'essayez pas de rentrer au GIGN quoi? J'ai dit, bah, écoutez, mon capitaine, je vais essayer. Et arrive une demande au niveau national pour prétendre à faire les tests. Alors, je ne me souviens plus combien on était, 60, 80 à présenter les tests. Et je finis troisième, malgré très peu de temps d'entraînement, parce que je me suis entraîné pratiquement 3 mois, quoi. Donc, je suis entre GIGN, pré-stage, machin. Et à la fin du stage final, je finis premier. Donc là, bon, j'ai eu le temps de m'entraîner pendant pratiquement un an. Et puis voilà, je me retrouve brevet 60, opérationnel, au groupe 1, voilà, jeune gendarme du GIGN. D'abord, il y a une remise de brevet qui est assez ludique chez nous, c'est très puissant. À l'époque, c'était du champagne, on était l'unité au monde qui buvait le plus de champagne. Le brevet était arrosé dans la coupe de champagne et ça finissait, c'était des soirées. Je ne vais pas trop expliquer parce que c'est chaud bouillant. Et là, c'était Proto, je me souviens, qui nous remettait nos brevets. Porte-le-Léo et soyez-en fiers. Ça finissait dans la coupe de champagne et puis c'était parti. On rejoignait nos groupes. À l'époque, c'était des groupes. Maintenant, c'est des sections. Et puis, on était accueillis comme ça se doit. Voilà. Et on était accueillis dans nos groupes, par nos chefs de groupe. C'est un excellent souvenir, ouais. Bon, après, il faut faire ses preuves, hein. On est tout nouveau dans la boutique. Et puis j'ai eu l'occasion très, très rapidement d'ailleurs de faire mes preuves comme tireur, parce que j'étais très bon tireur. Et je me souviendrai toujours, je pense, de ma première intervention. C'était un forcené harkis dans les Vosges, à Divillers exactement. Un vieux monsieur, tireur d'élite à l'armée, qui ne voulait pas payer une facture de gaz et d'électricité de 500 francs à l'époque. Et on a su que par la suite, en donnant l'assaut, les collègues ont trouvé des liasses de billets de 500 francs brûlés, quoi. Donc le gars, il avait décidé de ne pas payer, de faire sa petite guéguerre. Il a tué le voisin qui cueillait ses pommes. Il a tiré sur les employés qui étaient venus lui couper le gaz et l'électricité. Et il a tué une autre personne. Il a tué nos deux chiens qui ont été envoyés. Donc le mec tirait très bien, que de nuit. Voilà. Et je me souviens, dans l'avion, c'était un 262 à l'époque. Le capitaine Baril se promène entre les sièges et demande qui a fait le meilleur tir aujourd'hui. Puis tous. Ils m'ont tous désigné, puis effectivement j'avais fait le meilleur tir fusil de la journée. Bon, ben vous serez tireur d'élite. Et puis ça a duré toute la soirée, changement d'emplacement, machin et tout. Et je me suis retrouvé derrière ma lunette pendant 17 heures avant de pouvoir ouvrir le feu, parce que j'étais amené à ouvrir le feu. Pour la petite histoire, à l'époque, on avait des postes radio, des MX-330, et on n'avait pas de discrétaire pour mettre dans les oreilles comme ils ont maintenant. C'est-à-dire que Baril, d'où il était, le forcené entendait tout ce qui se disait dans les radios. Et à un moment, vers 7 h du matin, alors il avait pris du gaz, il avait pris de tout. Hein. Le gars, il disait rien. Il a tué nos deux chiens, il avait blessé 5-6 gars de chez nous. Enfin bon, c'était un truc de fou. Et le gars, jusqu'au boutiste, pas un bruit, il toussait même pas, alors qu'à l'autopsie, il avait les poumons saturés à 75% de gaz, CB. C'est vraiment impressionnant. Après l'autopsie, on a vu, il s'était fabriqué un espèce de gilet pare-balles avec une plaque en ferraille. Enfin, ah oui, le mec était décidé. Il voulait finir en beauté, quoi. Et vers 7 h du matin, on entend Baril qui dit à deux collègues, Michel et Jean-François, vous passez dans la pièce suivante. Alors, ils avaient réussi à rentrer dans le couloir, il y avait une première pièce, et il lui demandait de rentrer dans la deuxième pièce. Seulement, le forcené, il était juste en face dans le couloir, et bien sûr, forcément, personne ne le voyait. Et quand Baril a dit ça, les potes allaient sortir pour aller dans la. Et là, j'ai vu le forcené sortir de sa place, mettre en joue les copains pour les tirer. Et là, j'ai pas hésité, je l'ai neutralisé, quoi. Donc c'était ma première intervention, ça m'a bien marqué, quoi. Et ça me marque encore aujourd'hui. C'est la première, on ne l'oublie pas celle-là. Alors j'étais en tir fichant à 90 mètres. Et j'avais une fenêtre de tir, c'est une grande porte cochère, avec une toute petite porte qui était ouverte, il y avait une voiture dans le fond. J'étais dans un poulailler, les pieds en l'air, enfin en plein hiver, c'était un truc de fou. Et j'avais une fenêtre de tir de quelques centimètres entre le toit de la voiture et l'endroit où j'ai vu passer le gars pour les tirer sur les collègues. Donc voilà, 17 h derrière les lunettes, et je suis resté pendant 15 jours. Après, j'avais l'œil bloqué, je pouvais plus, à force de viser, bah, j'avais le bloc, je pouvais plus me servir mon œil là. Il était complètement bloqué. Ah ben bah, là, je n'avais pas le choix, c'était ça ou mes deux collègues étaient morts. Donc voilà, le gars est passé à ce moment-là, je l'ai vu se mettre debout, et là, c'était pas un tir de neutralisation, si on veut dire. Bon. Et là, c'était un tir réflexe. Si j'avais pu lui mettre une balle dans l'épaule, je l'aurais fait, mais là, c'était pas possible. C'est un tir réflexe pour défendre mes collègues qui allaient se faire tirer dessus, quoi. D'ailleurs, il y en a un des deux qui m'a remercié, parce qu'il y avait des journalistes sur place, et qui ont pris des photos en noir et blanc. Et puis un jour, il y a Jean-François, un de ceux qui devait rentrer dans la deuxième pièce, là, m'amène une grande photo en noir et blanc, où je suis dessus, où j'explique comment j'ai fait, comment ça s'est passé, avec une superbe dédicace dessus. Merci à celui qui m'a permis de voir le jour se lever. Je l'ai toujours là, et c'est ouf. Quand je la relis, ça touche, quoi. Un copain qui dit bah, merci, merci, tu m'as sauvé, quoi. Ouais. Je pense qu'on garde celles qui nous ont marqué le plus. Moi, ce qui m'a marqué le plus, bon, la dernière, Marignane, forcément, il y a eu notre mission en OPEX, l'opération Turquoise en 1994 aussi, grande année, où on a participé aux soins du COS juste après le génocide. C'est un truc terrible, ça, qui me marque encore aujourd'hui, quoi. J'en ai d'ailleurs fait un bouquin parce que j'avais envie de raconter ce qu'on avait vécu là-bas, quoi. Voilà, le Rwanda, ouais, ça, c'est inoubliable aussi, ça. Après, il y a eu des courses aux poursuites où. De gibier, on est passé, de chasseur, on est passé à gibier avec des gens du voyage qui nous coursaient, qui nous ont tiré dessus. Je me suis retrouvé à 200 à l'heure avec un fusil à pompe sur la tête comme ça, le réflexe de freiner, le coup m'est parti deux fois de suite devant. Enfin, un truc de fou, ça a duré 1 heure. une heure de folie, quoi. Ouais, c'était une bande de manouches qui avait à Cergy-Pontoise là-bas décidé de faire la loi. Et tout ce qui portait un uniforme, un képi ou un chien, ils tiraient dessus. Que ce soit le facteur ou autre, hein, d'ailleurs. Alors, on était, le groupement là-bas nous avait demandé de venir. Alors, on était 30 équipages, 30 bagnoles. Plus, dedans, on avait deux gars du GIGN par bagnole, plus un gars de la brigade locale qui était censé connaître le local, la localité. Alors, une grande ligne droite, quatre voies, le briefing avant, bien sûr, hein, et chacun avait sa zone, puis on part faire la reco de la zone, mais c'était pas pour se mettre en place, c'est juste pour voir un petit peu à quoi ça ressemblait. Et puis on nous avait donné la description des personnes, alors c'était avec des grosses bagnoles, des grosses Renault 30, des TX, enfin V6, grosses bagnoles quoi. Et ils étaient souvent 3 ou 4 par bagnole avec des cagoules, enfin bon. Moi on m'appelle le chat noir, et comme par hasard, en faisant la reco, il y a une bagnole qui nous... Alors on était, je précise, dans des voitures banalisées, 305 GTI banalisées, civiles, bon. Et je vois dans le rétro, c'est moi qui conduisais, je vois une voiture qui arrive derrière et dans le rétro, je dis « Oups, c'est eux, ils sont là. T'es sûr, t'es sûr ?» Puis là, on voit les gars qui nous croisent, cagoule retroussée sur la tête, deux devant, deux derrière, je dis « C'est bon. » Alors, ils se remettent devant nous, ils doublent une bagnole pour la droite. Et je dis « Tiens, c'est un peu bizarre cette histoire-là. » Alors, je m'approche, il faisait nuit, je m'approche au plus près pour pouvoir essayer de lire les plaques et les passer à la radio aux collègues. Les radios ne passaient pas. Et puis là, on s'est fait retapisser. Les mecs, ils nous ont reconnus. Alors, ils prennent une bretelle, en bas un rond-point. Je prends la bretelle, je prends le rond-point, et la bagnole disparut. Et 5 minutes après, elle était derrière nous. Et là, la course-poursuite a commencé. Alors, j'ai accéléré comme un malade. À 200 à l'heure, je ne pouvais pas lâcher le volant. Et avec leur grosse voiture, eux, qui était beaucoup plus puissante, ben, ils sont arrivés, je disais aux gars, fais gaffe, ils arrivent, je voyais les phares blancs. Ils se sont mis à ma hauteur, à 200 à l'heure. Et le mec qui était à l'arrière a sorti le fusil à pompe et m'a foutu le fusil à pompe sur la tête, quoi. Et le réflexe de freiner, bon, le coup est parti devant. Là, les gars repartent et 3 ou 4 kilomètres plus loin, rebolote. Les gars étaient de nouveau derrière nous et refont exactement le même manège, quoi. Et moi, je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas sortir d'arme. À 200 à l'heure, je tenais le volant, quoi. Je ne pouvais pas. Et puis les collègues derrière, ils étaient couchés. Le gendarme, alors lui, il s'est couché. Il a demandé sa mutation dans la foulée. Alors à un moment, ils prennent une bretelle et ils s'arrêtent en haut de la bretelle. Moi, je m'arrête au milieu de la quatre voies. Là, on sort avec les armes. Alors j'ai une arme, à l'époque, on n'avait pas les aides à la visée. Et il faisait nuit. Et là, les mecs commencent à nous allumer au fusil à pompe. Bah, 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 bah. Alors moi, avec le HK, au coup par coup, j'ai réussi à tirer. Le lendemain, à leur constitution, on a retrouvé du sang, on a retrouvé la lunette arrière qui avait explosé. Là, les gars s'en vont par cette bretelle. Nous, on continue. Et puis, de quelques kilomètres plus loin, on entend encore des coups de feu. Les gars, ils connaissaient bien la circo. Ils avaient pris une rue au-dessus. La route, c'était un dévers avec deux fois quatre voies. Et eux, ils étaient sur la route du dessus. Et là, ils nous allumaient, bam, 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 tout le long. C'était un truc de fou. Alors, je demande au criquet qui était derrière, le gendarme départemental, je dis, trouve-nous un endroit qu'on puisse se planquer pour appeler les collègues, parce que là, ça va mal finir, quoi. Alors, il me dit, ouais, là, ici, une bretelle, le roi Merlin, un cul-de-sac. Le mec, il nous emmène dans un cul-de-sac. Il y avait 3-4 bagnoles qui étaient garées, un camion, un petit camion Bell. Alors, on s'arrête, on regraille nos armes. Et je me suis dit, putain, ils vont pas nous laisser tranquilles. Les mecs, ils vont pas nous lâcher comme ça. Et effectivement, 5 minutes plus tard, je regarde sur la gauche, la bagnole, tout phare éteint. Le gars qui était à l'arrière de la bagnole, il était... Fenêtre ouverte, sorti le bus comme ça avec le fusil, et ils nous cherchaient sur le parking. Puis à un moment, ils ont vu la 305 GTI qui était garée au milieu du camion. Donc moi, j'avais pris le gendarme départemental, je l'ai jeté sous le camion, j'ai dit « tu bouges pas de là ». Et puis le gars, il a avancé sur nous, et puis c'était en contrebas, ils étaient à 25 mètres au-dessus de nous, quoi. Puis là, bam, 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 ils nous ont allumé, la voiture était truffée de plomb. Alors j'ai réussi à faire un roulé-boulé et aller chercher le HK qui était là, la bagnole. Puis là, j'allumais, puis avec le silencieux, le HK silencieux, SD2, là, ça fait, t'entends, plic, plic, mais puis le gars, il tombe pas, tu te dis, putain, mais je tire quoi, des billes en caoutchouc, quoi. Et en fait, le lendemain, on entendait, quand je tirais, on entendait un bruit de ferraille. Et le lendemain, on s'est aperçu que, en fait, Ça tapait dans la glissière de sécurité. Donc le mec, il continuait à me tirer dessus, ça ne le touchait pas. Et les impacts étaient groupés parce que je tirais au coup par coup, quoi. Et puis la bagnole se tire, je continue à tirer. Et puis voilà, on réussit quelques kilomètres plus loin à joindre le capitaine Kim. On lui explique le truc. Et puis voilà. Et le lendemain, ils ont retrouvé la bagnole brûlée, comme ils font d'habitude. Et y a eu des blessés et certainement des morts parce que quand. La première fois où ils se sont arrêtés à la bretelle, où j'ai pété la lunette arrière et tout, il y avait du sang dans la bagnole, et là, ils n'étaient plus que trois. Donc, il y en a un qui a dû passer à l'as, quoi. Et puis les autres, ben, on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Alors, apparemment, il y a les gens de l'EPIGN, quelques temps après, qui ont fait une descente dans le camp des gens du voyage de là-bas, du coin. Et ils auraient trouvé des blessés qui auraient dit, ouais, on s'est blessé, machin, machin. Enfin, bon. Les morts ont été enterrés, la bagnole était brûlée, et voilà. Puis, alors, ça, j'en rêve encore. Parce que passer de policier à gibier, ça fait vraiment bizarre, quoi. Et puis c'est que deux fois, je me suis retrouvé avec le fusil à pompe là. L'arc réflexe, c'est le pilet, quoi. Il y avait 80 mètres de freinage. Je n'ai même pas fait un freinage d'urgence. Hein. J'ai bloqué carrément, quoi. Et 80 mètres de freinage, on a mesuré le lendemain quand on a fait la reconstitution. Ben, il y a 200 à l'heure. Hein. Et deux fois de suite, je me suis retrouvé avec le pompe là, sur la tempe. Hein. Là, il avait le tube sur la glace. Là, ici, sur ma tête, là. Là, celle-là, j'en rêve encore. Même aujourd'hui, des années après, j'en rêve toujours, quoi. Moi aussi, j'ai pris du plomb parce qu'ils tiraient un peu de tout. Ils avaient, je ne sais pas ce qu'ils avaient dedans, du petit plomb, du gros plomb. Bah, la bagnole était truffée de plomb, de toute façon. Alors, et le collègue, il en a pris des plombs aussi sur la tête. Hein. Deux ou trois dans le cuir chevelu, mais bon, pas grand-chose, quoi. Par contre, le gendarme départemental qui était derrière nous, on s'est demandé où il était. Au début, il était couché entre les sièges, le pauvre, bah, c'est, voilà, c'est pas son boulot. Hein. Et dans la foulée, il a demandé sa mutation. Ah oui, non, mais il a eu la trouille de sa vie. Bon, moi, c'est pas grave, j'étais pas non plus bien dans mes godasses. Hein. Oui, non, mais j'ai pas dormi du tout, je faisais des bonds dans le lit. Ouais. Et puis même des fois, ça m'arrive là. Le fait de ne pas avoir pu, pas se venger, mais voilà, au moins les arrêter. Tu vois, on me tire dessus, bah, attends, tu vas voir. Et là, rien, quoi. Le mec, il s'est barré, puis je sais même pas qui c'est, quoi. Et je le saurais jamais. C'était à Avon, du côté de Fontainebleau, pareil, dans une barre, je ne sais plus quel étage, là, pareil, un Harky. Alors lui, il tire la 300 Magnum. C'est un beau morceau, quoi. Quand on est arrivé sur place, on était au rez-de-chaussée. On a repéré à peu près où était l'appartement du forcené. Et on a demandé aux gens, aux étages, on est monté, on a grimpé, on a demandé aux gens s'ils pouvaient. On s'est présenté forcément, puis ils étaient au courant, parce qu'ils entendaient les coups de feu. Ils m'ont dit, ouais, pas de problème. Et là, ils nous ont installés dans leur cuisine, qui donnait juste en face, avec la table. Là, c'était nickel. Moi, j'avais un fusil FRF1 avec une OB50, c'est une lunette de tir de nuit. Et à un moment, là, il a coupé un pompier en deux. Il y a des policiers qui sont montés à l'étage et qui ont mis les anciens boucliers, qui avaient une forme un peu bizarre, là. Ils avaient mis les deux boucliers, l'un derrière l'autre, devant la porte du mec. Et lui, il tirait avec de la munition point de creuse, de la munition de chasse, 300 Magnum. Et il y a un pompier, on ne sait pas pourquoi, il s'est retrouvé derrière le bouclier et derrière la porte. Poum, le gars, il a tiré à travers, la balle qui touche les gilets. Surface frontale, grosse comme ça, ça traverse tout, et ça a coupé le mec en deux, quoi. Les collègues avaient réussi à monter au-dessus de son appartement à lui, et il avait des rideaux sur toute une baie vitrée. Alors, pour essayer d'ouvrir cette baie vitrée, ou au moins d'enlever les rideaux pour que je puisse, moi, le voir et le neutraliser, ils essayaient avec des rallonges de cyclis, de tirer et d'enrouler les rideaux. Et à ce moment-là, le forcené qui les a vus a voulu les tirer. Et c'est à ce moment-là que je lui ai tiré une balle dans l'épaule. Et avec une full metal jacket, quand on touche pas l'os, ça fait un trou. C'est tout. Ça dure dans le temps. Et puis au petit matin, il commençait à faire jour. Je vois le gars qui était complètement à l'opposé de son appartement. Et là, il n'y avait plus de rideaux, il n'y avait plus une baie vitrée. Chez nous, notre philosophie, c'est de blesser la personne. Le bras armé, lui tirer dans le bras armé pour la neutraliser, pas la tuer. Comme ça, après, on la récupère, on la donne à la justice et après, elle fait son boulot. Et là, je prends le fusil de jour, le FRF1 de jour, puis là, pim. Alors, dans la lunette, tu vois pas si le gars, il est de face ou s'il est légèrement de profil. Tu n'arrives pas à voir exactement. Voilà. Et là, je lui en mets une dans l'épaule. Et là, j'entends le gars hurler. Bon, je dis, c'est bon. Bon, la première balle lui avait rien fait, mais moi je ne savais pas si j'avais touché, mais je l'ai vu à l'autopsie après. Donc il a encore son fusil dans les mains, donc c'est que voilà. Et là, j'y en mets une dans l'épaule, pensant lui avoir touché que l'épaule. Et on a su après, avec l'autopsie, que non, en fait, il était légèrement de profil. La balle l'avait bien touché dans l'épaule, mais avait cassé l'épaule, il avait ouvert les pectoraux, la viande, hein, et cassé l'autre bras. C'est-à-dire qu'il avait les deux bras pétés et il était ouvert là. C'est pour ça qu'il l'avait. Il a hurlé, le gars. Et à ce moment-là, il y a l'équipe qui était dans le couloir chez lui, donne l'assaut et se retrouve face au gars, les deux bras pétés, avec le fusil dans les mains. Dans un état extrême, tu ressens, avec l'adrénaline, tu ressens ni les coups, ni les chocs, rien du tout. Et là, le gars, il avait les deux bras pétés, il était devant la porte avec son 300 Magnum, quoi. Puis là, ben, c'est les gars qui l'ont neutralisé définitivement, voilà, quoi. Alors, la vie à l'époque, on était trois groupes. Donc, on avait un groupe de première alerte qui devait être là dans les 5 minutes. Il y avait un groupe de deuxième alerte qui prenait la suite de la première et ainsi de suite. Et un groupe disponible. Disponible, le gars, il fait son auto-entraînement, il va faire ses courses, il va faire ses sauts en parachute, il va faire ses petits trucs, ses petits machins. Et dès qu'il y a un groupe qui partait, c'est l'autre qui prenait la suite. Alors ça, c'était une semaine. Une semaine sur une semaine. Alors là, bah, c'était entraînement collectif à la semaine d'alerte. Et c'était surtout entraînement collectif et on attendait qu'il y ait un départ, ou pas. Et il y a beaucoup de fois où il n'y avait pas. Bah, moi déjà j'aimais beaucoup le tir, j'étais très bon en tir en plus, pour les tests du groupe j'avais fini premier, puis après je me suis lancé dans les compétitions, les championnats de France, et puis c'était mon truc quoi, le tir. Mais j'ai toujours été très bon tireur. Pas me faire des fleurs, mais tout gamin déjà, mes parents m'ont acheté une carabine à plomb et puis déjà je m'étais fait la main tout seul, hein, avec la carabine à plomb. Et puis quand j'étais à la garde républicaine, j'avais un de mes chefs qui avait fait le stage moniteur de tir, chef d'Arinet, je me souviens. Alors il avait une pédagogie extraordinaire, par contre lui il ne savait pas du tout mettre en œuvre sa pédagogie à lui, moi si. Et il avait créé un petit club de tir dans les sous-sols, un club de tir à 10 mètres, avec des pistolets allemands Fenverbo. Et puis bah là, j'ai commencé à apprendre tout seul avec les renseignements que m'avait donné mon chef. Et puis je me suis rendu compte qu'en pistolet, j'étais vraiment très fort, presque plus qu'à la carabine. Et puis bah, j'ai continué là-dedans et puis voilà quoi.
Bonsoir à tous. Après 54 heures d'angoisse, les 170 otages de l'Airbus d'Air France ont donc été délivrés cet après-midi sur l'aéroport de Marseille. Un assaut des gendarmes du GIGN, quasiment parfait, et qui a duré un peu moins de 7 minutes.
Moi, j'étais en vacances quand il y a eu l'alerte. Pour préciser un petit peu, j'apprends sur la radio qu'un groupe de terroristes algériens a pris en otage un Airbus sur l'aéroport d'Alger, avec des revendications pour faire libérer des collègues à eux, et ainsi de suite. Là, ils commencent à tuer un otage, un policier algérien. Ensuite, un peu plus tard, les négociations n'aboutissent pas. Ils ont tué un diplomate chinois, je crois. Et puis en dernier, ils ont tué le pauvre Français qui était cuistot à l'ambassade de France. Alors, beaucoup de négociations. L'avion interdit de décoller sur Alger. Donc, nos collègues, nous, étaient en alerte pour pouvoir intervenir au cas où. Et puis moi, permissionnaire, avec mes collègues, en arrivant au groupe, on nous dit « Préparez-vous, ça risque de partir ». Les négociations se poursuivent, mais n'aboutissent pas. Et là, on m'appelle, il était minuit, je crois. Ouais, Bernard m'appelle et me dit bah, « Écoute, tu récupères tes gars, ton matos, direction Villacoublay, et vous embarquez sur Marseille-Marignane ». Bon, on arrive là-bas 2 heures plus tard, à peu près. On décharge le matos. Et on nous dit, planquez-vous, l'Airbus arrive. C'est-à-dire que l'Airbus d'Alger, M. Balladur avait, en mettant la pression sur le président Zeroual, en lui disant que s'il y avait encore des morts, ça serait lui le responsable. Donc il a autorisé l'avion à décoller. L'avion a décollé et il est arrivé en même temps que nous, pratiquement. Nous, on était posés, on nous a dit, planquez-vous, il arrive. Et à 1h du matin, l'avion est arrivé, l'Airbus, avec... ils avaient libéré quelques otages dedans, il y avait 173 passagers et membres d'équipage dans l'avion. Voilà, ça c'était le début de Marignane. Alors nous on est planqués dans les hangars, juste à côté. L'avion lui il est continué, il y a une piste qui est faite exprès en cas de détournement d'avion ou quoi. C'est sur le tarmac, bien plus loin. Et nous on a notre PC Crise, c'est un vieux bus désaffectés où nos secrétaires avaient mis des tableaux. Nos tireurs sur place nous renseignaient en permanence sur les déplacements dans les avions et qui, par les hublots qui étaient restés ouverts, nous indiquaient les déplacements des terroristes dans l'avion, leur physionomie. Puis ça a duré toute la nuit et nos secrétaires marquaient en même temps, heure par heure, tous les renseignements qu'on avait. Ils ont même fait un leurre à un moment, ils ont pris un otage, ils lui ont mis un chaise sur la tête et ils l'ont mis à la porte pour voir notre réaction.
L'appareil était mobilisé à Marignane depuis 3h30 la nuit dernière. À 10h ce matin, un premier ultimatum expiré, les quatre terroristes qui avaient exécuté trois otages à Alger voulaient le plein de kérosène.
Les terroristes voulaient qu'on refasse le plein de l'avion. L'avion, il y avait assez de kérosène pour rejoindre Paris. Et ils demandaient le double de pétrole. C'est qu'après, on a compris leur stratagème et ce qu'ils voulaient faire. Alors ça a duré un moment. Après, on a dit, il faut ravitailler au niveau de la nourriture. Bon. Il y a des gens de chez nous qui sont désignés pour aller prendre les engins de piste et aller récupérer, ramener de l'eau, vidanger les toilettes et amener de la nourriture pour les passagers. Là, ils ont été fouillés, mis à poil pour voir un petit peu. Donc là, ils n'avaient pas d'armes. Ils étaient là juste pour voir un petit peu le dispositif à l'intérieur de l'avion et ainsi de suite. Ensuite, négociation, renégociation, pétrole, pas pétrole. Les gens faisaient croire que personne ne veut livrer du pétrole, les gens ont peur. Puis ça dure comme ça jusqu'au 26, quelques temps avant qu'on donne l'assaut. Alors, ils avaient demandé également à faire une conférence de presse à la cellule de crise, là-haut. Le commandant et les négociateurs avaient dit, pour faire une conférence de presse, il faudrait que vous reculiez tous les passagers du premier galet. C'était bien, parce que une fois que je suis intervenu moi, avec mes gars, à l'avant, les passagers n'étaient pas là, donc ils étaient à l'abri par rapport à ce qui se passait à l'avant. Nous, on a isolé le reste de l'avion, en fait. Renégociation, conférence de presse, on ne l'a fait pas. Ils ont libéré d'abord un petit couple d'anciens qu'on a reçus, nous, au PC Crise.
Rien ne s'est produit jusqu'à 15h30 cet après-midi, lorsque deux passagers, des personnes âgées, sont relâchés, apparemment sans contrepartie.
On leur a posé plein de questions sur comment ça se passait dans l'avion, où étaient les terroristes, ainsi de suite. Ils ont dit, il y a toujours deux derrière, toujours deux devant, ils font un roulement, et ainsi de suite. Il y avait quatre terroristes. Ouais. On leur a également montré des planches photos avec de l'armement, des munitions, des explosifs. Ils nous ont dit, ils ont ça, ça, ça. Alors on savait qu'ils avaient une Kalachnikov, on savait qu'ils avaient une Uzi israélienne, on savait qu'il y avait un HK et un Makarov soviétique. Donc déjà. Après, pour le reste, ils n'ont pas su nous expliquer. Il y avait des boîtes avec des fils. Les personnes ne savaient pas ce que c'était. En fait, c'était explosif. Il y avait un leurre quand même. Et ils avaient commencé à piéger l'avion avec un système de feu, mise de feu électrique et pyrotechnique. Méchelante et... Ouais. Et quelques temps après que ces personnes aient été libérées, on entend les tireurs nous annoncent un réacteur en route, deux réacteurs en route.
Puis ce sera un déplacement de l'appareil vers la tour de contrôle, sans explication et sans que le plein de kérosène ait été effectué.
On a dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ils vont décoller d'initiative. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils ne pouvaient pas décoller d'initiative parce que les camions de pompiers avaient bloqué la piste. Donc ils sont venus se placer tranquillement, ils sont venus dans notre dispositif et ils se sont mis tranquillement le nez sous la tour de contrôle. Alors là, on a dit, ils ne peuvent plus décoller pour aller faire péter l'avion au-dessus de Paris. Et ils vont faire péter l'avion sous la tour de contrôle. C'est ce qu'ils voulaient faire. Ils voulaient demander les plans parce qu'ils voulaient faire le gros truc, quoi. Soit la tour Montparnasse, soit la tour Eiffel, soit... Là, comme ils ne pouvaient pas, ils ont dit, tiens, allez, hop, ça sera la tour de contrôle. Et une fois que l'avion a été sous la tour de contrôle, je ne me souviens plus le temps exactement, on entend des coups de feu à l'opposé de nous, parce que nous étions dans les hangars à quelques centaines de mètres. Et le commandant Favier, à l'époque, qui faisait la liaison entre la cellule de crise dans la tour de contrôle et le PC crise où nous en étions, les chefs de groupe et ainsi de suite, il faisait la liaison. Il nous dit, voilà les gars, aux prochaines exactions, on y va. On a le feu vert de M. Balladur et de M. Pasqua, on y va. Quelques minutes après, il était 17h12, exactement, pour être précis, on entend des coups de feu à l'opposé, sur la tour de contrôle. On a dit, ah, c'est bon. Alors, top action, on était déjà sur nos passerelles. Top action du commandant Favier, on part.
Les forces du GIGN ont pris d'assaut l'appareil vers 17h15, alors que 170 personnes étaient toujours à bord.
Nous, on était placés, toute mon équipe, les 8, on était placés sur des escalators, des passerelles borgnes, c'est-à-dire qu'on ne voit pas entre les marches. et comme on était couchés, de leur position à eux, même en regardant par les fenêtres, ils voyaient des passerelles arriver, mais ils ne nous voyaient pas nous. Et pendant ce temps-là, les terroristes ouvrent toutes les portes, un gauche, deux gauches, ainsi de suite, jusqu'à remonter jusqu'aux portes droites, et rafales à chaque fois, bam, 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 sur toutes les portes. Et nous, on était partis déjà. On a pris des impacts sur la passerelle. Et comme nous, on était les plus près, on s'est retrouvés à arriver en premier sur notre passerelle, sur la première porte, alors que nos autres équipes à l'arrière gauche et à l'arrière droit avaient beaucoup plus de chemin à faire, ce qui fait qu'en fait, ils sont arrivés 15 secondes après nous. On avait deux gars qui étaient désignés pour ouvrir la porte et nous laisser passer. Et là, on a eu un problème de porte. La passerelle était trop haute. Quand on était dans les hangars, il y avait une petite confusion, parce que le matin, on avait mesuré nos passerelles à l'arrière, parce que l'arrière est plus haut quand on regarde un Airbus de profil. On allait passer les portes arrière gauche et arrière droite qui sont légèrement plus hautes que la porte avant droite et gauche. Il y a eu une confusion et quelqu'un a dit à mon chauffeur, remonte ta passerelle à la même hauteur que les autres. Malheureusement, quand on a pris la route pour donner l'assaut, le chauffeur en dessous me l'a confié après, il m'a dit, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas, jusqu'à ce qu'effectivement il se rende compte que bah, ça passait pas. Donc, quand on regarde les vidéos, on a l'impression que c'est très long. Nous aussi, c'était très long. Parce que pour moi, j'étais là-haut, j'étais persuadé qu'il y avait des terroristes qui bloquaient la porte. J'ai dit à Eric, qui était à côté de moi, fais gaffe, il y a du monde derrière, on va s'en prendre une à travers, quoi. Et je me souviens, au moment où entre le moment où on sortait des hangars et le moment où on allait sur l'avion, là, on s'est tous regardés et quelques années après, j'en ai reparlé avec les chefs des autres équipes et ils ont fait exactement la même chose que nous. On savait tous qu'il y en a probablement certains qui ne rentreraient pas, qui ne reviendraient pas vivants. Donc on s'est tous regardés du haut jusqu'en bas et on s'est tous serré la main. Et à travers les masques et la lumière de la tour de contrôle, on voyait nos têtes. On n'était pas bien, quoi. On savait que de toute façon, on allait un petit peu à l'abattoir, quoi. Et puis bon, ça s'enchaîne. JFK en dessous voit que ça passe pas, que c'est bloqué, file un petit coup de marche arrière. Là, la porte, elle s'ouvre. Il y a une petite marche à sauter de ça. Et moi, j'enquille directement dans le cockpit. Ça se passe en quelques secondes, quoi.
17h17, les hommes du GIGN prennent d'assaut l'Airbus A300 d'Air France sur l'aéroport de Marignane. Épilogue de plus de deux jours d'angoisse pour 170 personnes, les quatre hommes du commando sont alors dans le cockpit. Quelques secondes à peine se passent, des renforts arrivent par l'arrière, les rampes sont installées, le GIGN doit agir très vite.
Tenue d'intervention bleue, casque pare-balles, cagoule. Moi j'ai un double armement, j'ai un P228, mon Manurin, avec lequel je suis intervenu, une radio, un gilet pare-balles, une chasuble avec la radio dedans. C'est la tenue basique de l'époque, quoi. C'est vraiment basique, parce que maintenant c'est des porte-avions. L'emplacement de mes gars, c'est moi qui l'ai décidé parce que j'étais le plus ancien. Et comme chez nous, la fonction prime sur le grade, c'est pas le commandant qui a décidé, c'est moi qui ai décidé, le plus ancien, qui serait devant, derrière, et ainsi de suite. Donc le commandant était dernier, hein, sixième, sur les huit, parce que les deux autres ont passé derrière après. Et chacun avait sa place. Il y en a deux qui ouvrent la porte. Et eux, normalement, ils rentrent pas, ils rentrent en dernier. Ils laissent passer l'équipe d'assaut. Et puis là, ça va très vite, quoi. C'est hyper rapide. Je rentre, je me retrouve dans le couloir, mais c'est en deux enjambées, hein. C'est tout petit. Hein. Et là, je me retrouve, j'entends tirer. Et je me suis dit, tiens, avec les oreillettes dans les oreilles, on entend un bruit, mais on ne sait pas d'où ça vient, les coups de feu. Et moi, j'étais persuadé que c'était les collègues de l'arrière qui étaient déjà arrivés. En fait, ils n'étaient pas encore arrivés. Quand moi, j'étais dans le cockpit, eux, ils étaient en train d'ouvrir les portes. 15 secondes de retard, le temps qu'ils se placent, qu'ils aillent le faire tour de l'avion et ainsi de suite. Alors j'entends tirer, puis la deuxième enjambée, je me retrouve face à des terroristes. Alors pour la petite histoire, les quatre terroristes en fait étaient dans le cockpit avec les membres d'équipage, le pilote, copilote, mécanicien, navigateur. Et tout ce petit monde-là était habillé pareil. C'est-à-dire que les terroristes avaient prévu au départ dans les sacs l'armement, les munitions, les explosifs et les tenues de steward. Donc, il fallait faire le tri, parce qu'au départ, moi, j'étais persuadé que j'allais tomber sur deux, comme c'était prévu, comme nous avaient dit les deux petits vieux, et deux à l'arrière. Et en fait, non, il y avait sept personnes dans le cockpit. Le pilote, copilote, mécanicien, navigateur, et les quatre terroristes. Donc j'en vois un premier que je neutralise, le deuxième que je vois au dernier moment qui a des lunettes noires et une veste de Stewart, que je tiens en deuxième, et le troisième qui est juste derrière, qui est en chemise blanche, lui aussi, avec le HK, je le tire, et au moment où je le tire, le quatrième que je n'ai pas vu, qui était caché sous la table du mécanicien navigateur, qui avait la calache, le chef, Mohamed Yahya, là il me tire dessus, à la calache, et là j'en prends sept. Jusqu'à la septième, je me la prends dans la joue. La première, je pense que je l'ai prise dans l'épaule, parce que c'est celle-là qui m'a sonné. La première, c'est comme si j'avais pris un 38 tonnes, quoi. Et après, j'ai été touché une, deux, trois, quatre, deux fois dans mon gilet pare-balles, donc celle-là, voilà, et la dernière dans ma joue. Mais les autres, la première, je l'ai sentie, elle m'a fait très mal, et les autres, je ne les sentais plus après. Le corps, il se met en sécurité, avec l'endorphine, l'adrénaline, on ne sent plus rien. Et la dernière que je prends dans la joue, en fait, me sauve la vie, parce qu'elle m'éjecte, elle m'éclate ma visière, et elle me fait sortir du couloir. Et je me retrouve dans le premier galet couché par terre, et le terroriste continue à me tirer dessus au coup par coup. Et je me souviens, je me suis dit, mets-toi à gauche, parce que tu vas ramasser, quoi. Alors je me pouvais comme je pouvais avec mes jambes, et je me suis retrouvé à la porte à gauche, en face du strapontin qui sert pour le décollage pour les personnels navigants. Et là, le gars qui me tirait dessus, je voyais les impacts qui passaient à travers le siège, mais juste au-dessus de moi. C'est les impacts qu'a pris mon collègue dans les cuisses, qui était lui à l'opposé, à gauche. Et je me suis dit, là, t'es mal, t'es vraiment mal, quoi.
Épilogue de plus de deux jours d'angoisse pour 170 personnes, les quatre hommes du commando sont alors dans le cockpit. Quelques secondes à peine se passent, des renforts arrivent par l'arrière, les rampes sont installées, le GIGN doit agir très vite. Le copilote se jette alors sur la piste, il se blessera mais sera sain et sauf. Des toboggans sont déployés. Il est à peine 17h20, on aperçoit des éclairs.
Et ça a duré quelques secondes, et là, à un moment, il y a un collègue qui, comme on fait à l'armée, quand tu jettes une grenade, tu dis grenade. Bon, puis là, il y en a un qui dit grenade. Et j'entends la grenade qui roule à côté de moi. Mais à côté, parce qu'elle a pété à 80 cm, quoi. Alors, comme dans le film L'Assaut, l'instinct de survie, je me suis tourné sur le côté comme j'ai pu, et la grenade, boum, elle a explosé, quoi. Et j'ai pris tous les éclats, c'est des grenades soviétiques, c'est des micro-éclats. J'ai tout pris dans les fesses, les cuisses. J'ai des acouphènes maintenant à vie, quoi. Et une grenade, normalement, c'est mortel à 100 mètres, moi, elle m'a pété à 80 cm des fesses, et il y avait un trou de 25 cm dans l'avion, quoi. J'ai eu extrêmement mal, j'ai dû tomber en les pommes, être inconscient quelques secondes. Et ça a duré 12 minutes. 12 minutes où personne ne pouvait venir me chercher parce que le dernier, avec la calache, bah, il tenait tout le monde en respect, quoi.
On craint alors le pire, mais ce sont des grenades aveuglantes pour la diversion. Une cinquantaine de passagers fuient par les toboggans. Les hommes du GIGN maîtrisent déjà la situation.
Depuis moins de 30 secondes, 10 à 15 hommes du GIGN sont à bord. Un commando est entré par l'arrière. C'est là que se trouve la majorité des otages. Au fur et à mesure de leur évacuation, ils sont regroupés et doivent se coucher sur le sol. Le GIGN les débarrasse de leurs sacs, qui peut entraver, ralentir leurs mouvements, mais il peut aussi y avoir un terroriste cachant une arme.
Puis oui, au bout de 12 minutes, on ne sait pas qui, il a été neutralisé. Et là, j'ai un copain qui est venu me sortir et me mettre sur le toboggan. Et puis là, les médecins m'ont récupéré en bas, ont vu l'état dans lequel j'étais, ils m'ont shooté. Et je ne me souviens plus de rien jusqu'à 3h du matin à l'hôpital Sainte-Marguerite de Marseille, où la première chose que j'ai fait, c'est regarder si j'avais encore mon bras. Donc j'ai vu un gros machin tout jaune, et puis je voyais le bout de mes doigts. J'ai dit, bon, s'il y a les doigts, c'est que le bras, il est encore là. Puis comme j'étais shooté et tout, j'avais pas mal, il y avait plein de gens autour de moi. Bon, tout allait bien. J'ai appris que tous les passagers étaient sauvés. Donc, bien, très bien. Et que les seuls blessés, c'était les copains, les collègues, quoi. Mais bon, je suis là aujourd'hui. La plus belle action et la plus belle page que le GIGN a gravée à ce jour.
La fin de cette prise d'otage, on l'a vu, aura été très rapide. Ce soir, le gouvernement français et la classe politique ont rendu hommage à l'action du GIGN, sans qui le bilan aurait été sans doute beaucoup plus lourd.
Alors moi, dans mon équipe, il y avait des grosses blessures, c'est moi le plus blessé. Après, c'était des blessures légères. Il y en a un qui a eu l'index coupé. Il y en a un qui a eu des éclats de balles dans la joue. deux qui ont pris des éclats, un dans le mollet, un dans la fesse, un qui a pris une balle de calage qui lui a sectionné le péroné, et un qui en a pris deux dans les cuisses, ça n'a pas touché les os, heureusement pour lui d'ailleurs. Et puis celui qui, on voit sur la vidéo, un gars qui se prend, on voit une boule de feu, et le gars qui tombe en arrière. En fait, c'est un truc extraordinaire. Le mec, il a eu... Le bon Dieu était avec lui ce jour-là aussi. Il était avec son P228, et le gars sort, le dernier terroriste qui restait avec la calache, sort et tire sur lui. La balle de la calache vient se mettre dans la tige guide du P228 et fait exploser la cartouche qui était dans la chambre. C'est ça, cette boule de feu qu'on voit là. Alors les journalistes, ouais, il y en a un qui s'est fait exploser la main. Non, rien à voir. Il a juste eu une petite écorchure au bout du doigt, mais il a eu une chance terrible, quoi. La balle dans l'axe de son canon. C'est un truc extraordinaire, quoi. Un truc qui peut pas arriver deux fois. Donc il se casse la figure, il descend, il emmène tout le monde avec lui. Là, il prend son Manurin, sa deuxième arme, et il remonte. Mais il n'a jamais pu rentrer dans l'avion, il est resté dehors jusqu'à la fin, quoi. Il y avait 173 otages et membres d'équipage, tous sains et saufs. Il n'y a que le pilote, je crois, qui a pris une éraflure sur la fesse. Tous les autres, bon, il y a les journalistes, bien sûr, qui ont dit « Ouais, il y a eu plein de blessés, 27 blessés. » Au départ, même nous, il y avait 25 morts chez nous, sur la 2, les annoncés. Imaginez les familles qui étaient à Satori là-haut, qui n'avaient pas de renseignements, qui n'avaient rien, et qui entendaient à la télévision 27 morts, chapelle ardente, c'était grave, quoi. Et en fait, non, tout le monde est sain et sauf, les seuls blessés, ce sont les gendarmes. Avec plusieurs actions individuelles, on a une réussite collective incroyable, quoi. C'est jamais arrivé, un truc comme ça. Zéro blessé chez les otages. 4 terroristes dans l'avion, quand même. Et armés comme il faut. Hein. Donc c'est une belle réussite, que, voilà, c'est un truc que je ne peux pas oublier. Bon, déjà, je suis handicapé à 100%, donc déjà, ça, je ne peux pas l'oublier. Et ça me rappelle alors tous les jours, et voilà, ça... Jusqu'au bout, hein. Jusqu'au bout, ça sera à Marignane, quoi. Même encore la preuve, parce que j'ai eu une phlébite à cause de Marignane il y a 3 ans. Ben aujourd'hui, si c'était à refaire, ben je le referais, oui. Oui, parce que c'est une grande fierté d'avoir sauvé tous ces gens, quoi. 173 passagers, manque d'équipage, avec qui j'ai d'ailleurs des contacts encore, et qui... Voilà, il y en a un... Le pauvre, il me fait de la peine, Gilles, il s'appelle. Et il est breton, et après Marignane, il a complètement disjoncté. Et ça m'est arrivé avec mon épouse d'aller le voir, et là, c'est que du bonheur. Et c'est des larmes aussi, parce qu'il me saute au cou, il m'embrasse, il pleure. Et il nous est arrivé aussi d'aller voir le copilote, celui qu'on voit qui saute de la fenêtre, là, qui se fait bien mal d'ailleurs. Et il habite du côté de Bordeaux, donc on est allé le voir deux ou trois fois. Et ben, c'était toujours un grand plaisir, lui aussi, qu'on se revoit, qu'on discute, qu'on se rappelle forcément. Voilà. Et puis on repart avec une belle caisse de vin, parce qu'il a des propriétés, il a des vignes. Et voilà. Déjà à l'époque, à Marignane, à la caserne, quand je suis rentré de l'hôpital, il m'avait offert à moi 12 cartons avec des magnums, et puis j'ai donné ça au comité des fêtes. J'ai trouvé ça vachement sympa, quoi. Le commandant Favier, à l'époque, qui avait organisé pour les 20 ans un repas. Alors, il y avait quelques anciens stewards qui étaient là, le personnel PNC et PNT, parce qu'il y avait le mécanicien navigateur qui était là aussi. Puis on avait fait un petit repas ensemble, c'était vachement sympa, ouais, on se retrouvait. À Satori aussi, là-haut, il y a un petit bar qui s'appelle Satori Bar. Et ça arrivait plusieurs fois, tous les ans, on se retrouvait, on refaisait un petit peu la guerre, quoi. C'est là que le commandant de bord, Bernard Delem, m'avait dit, parce qu'on reparlait de cette fameuse passerelle, il m'a dit non, la passerelle, qu'il y ait du monde dans l'avion ou que l'avion soit vite, l'assiette, elle ne bouge pas. C'est toujours la même. Parce que moi, j'ai culpabilisé. Pendant des années, j'ai toujours dit c'est de ma faute. Puisque le matin, c'était moi qui avais réglé la passerelle à la bonne hauteur. Et comme ça bloquait, je me suis dit c'est de ma faute. Et j'ai toujours dit aux journalistes que c'était de ma faute. Et en fait, ce n'était pas du tout de ma faute. C'est quelqu'un qui a fait remonter la passerelle au dernier moment, quoi. qui aurait pu tout faire foirer. Si le copain en dessous n'a pas réalisé que ça passerait pas, eh ben ça restait bloqué. Et là, c'était un enfer là-dedans. Donc voilà, on a eu beaucoup de chance aussi, parce qu'il faut toujours une part de chance sur une intervention. Et là, c'était le cas. Oui, la convalescence, elle a duré bon, déjà 3 mois d'hôpital, très dur, avec une maladie nosocomiale, un arrêt cardiaque, 19 anesthésies générales, une tous les deux jours. Ça vous secoue le bonhomme quand même, quoi. Et puis, tout se passait bien parce qu'il y avait des gens, des amis, des collègues qui venaient régulièrement à l'hôpital. À l'époque, j'avais ma compagne qui était là et elle partait en CX avec les gars du groupe qui l'emmenaient, elle passait la journée avec moi. Puis un jour, on sort de l'hôpital. Et puis là, on se rend compte que c'était du protocole, tout ça. Puis qu'après, il n'y a plus personne derrière. Alors là, c'est une grosse prise de conscience. Et les syndromes post-traumatiques qui sortent de temps en temps, comme ça, là. Comme il y a quelques années, même ici, là, où j'ai fait une grosse, grosse dépression. Il y en a déclencheur, je ne sais pas quoi. Puis je me suis retrouvé à l'hôpital, quoi. Mais bon, on va se prendre indemne hein, de ce genre de trucs, quoi. Enfin, j'ai gardé des lettres, là. Ça arrivait, ils ne connaissaient pas mon nom, c'était... Si, mon nom, Thierry Pregnaud, GIGN France. Alors forcément, c'est arrivé là-haut. Et puis j'en ai plein de lettres, de petits jeunes, même des gamins, hein, de 8 ans, qui m'ont envoyé une lettre avec des petits dessins, c'est trop touchant, quoi. Puis même encore aujourd'hui, des gendarmes, et régulièrement, une fois, j'étais dans le métro avec mon épouse, puis un mec, qui vient me voir, « Oh, c'est Thierry Pregnaud !» Je dis, après toutes ces années, il y a des gens, d'abord, qui sont physionomistes, et puis... Puis des fois, des gens qui n'étaient même pas nés à l'époque, quoi. Moi, j'ai des jeunes qui m'écrivent, des jeunes gendarmes qui n'étaient pas nés et qui sont rentrés en gendarmerie parce qu'ils ont vu, comme mon filleul à Tonne, ils ont vu Marignane, mon filleul, il a dit « je veux faire comme celui qui est rentré en premier ». Alors ça a suscité pas mal de jeunes à partir en gendarmerie, quoi. Alors, c'est une grande fierté aussi, ça, d'avoir fait en sorte que, avec une action comme celle-ci, ça suscite des vocations, quoi. C'est bien. Alors pour continuer, quand je suis sorti de l'hôpital, 3 mois d'hôpital, rééducation, j'avais des fixateurs externes pour mon bras que j'ai gardé plus d'un an. Et normalement, le médecin-chef qui m'a opéré m'a dit « Votre bras, les gens ont failli vous le couper. Il est là, mais vous ne bougerez plus avec. » quoi. Mais je me suis battu. Et puis j'arrive à pas vivre normalement, parce que je suis handicapé à 100%, mais je me débrouille. Quoi. Si je suis habillé, les gens ne voient pas. Hein. Donc ça m'arrange. Puis je continue avec ma salle de sport maintenant. Je relâche pas, surtout pas. J'ai quitté le groupe et ça m'a fait mal au cœur parce que de toute façon, bon, j'arrivais à la limite d'âge à l'époque. C'était 42 ans pour les grader. Et je me disais, c'est fini pour toi. Quoi. Tu vas faire quoi? Handicapé? Tu vas retrouver quoi comme boulot? Puis en fait, comme je suis parti avant, j'ai décidé de partir parce qu'on m'a refusé mon grade de major et on m'a fait quelques petites vacheries. Donc j'ai décidé de quitter, carrément. Le commandant Favier m'a dit... Thierry, je pense que vous faites une connerie, vous devriez rester avec toutes vos médailles. Vous irez à la garde républicaine, à l'état-major, dans les bureaux. Sinon, mon commandant, non. Le bureau, c'est pas pour moi. Quoi. Carrière au GIGN, je ne vais pas me retrouver dans un bureau. Quoi. Donc j'ai décidé de partir. Donc j'ai été rayé des cadres. Et en partant plus jeune, je n'avais pas le droit de reprendre un boulot dans la fonction publique. Donc j'ai décidé de monter une association de remise en forme. J'avais acheté du matériel déjà à Paris, que j'ai ramené là. La mairie m'a prêté un local et puis voilà. Je m'occupe depuis 24 ans maintenant de cette association. Ça marche très bien, il y a plein de monde. C'est une association, donc c'est super sympa. C'est une bonne ambiance, il y a des jeunes, des moins jeunes. On a un papy, notre doyen, là, 92 ans, qui vient pousser de la fonte et il envoie du gaz. Hein. C'est bien, respect. Hein. Non, c'est bien, je m'occupe. Quand je suis arrivé à la retraite ici, là, j'avais une compagne qui travaillait à Poitiers, à 20 km d'ici. Et un jour, j'allais la chercher, j'étais à pied devant son bureau, et je vois passer un scooter avec un adulte devant, et puis un gamin derrière, un gamin de 13, 14 ans, je ne sais pas. Et le scooter pile, s'arrête, fait demi-tour, et revient vers moi. Alors je m'en méfie quand même, parce que moi, on ne sait jamais avec qui on a affaire, quoi. Et le gamin saute du scooter, et il vient me voir, et me dit « Vous êtes Thierry Pregnaud, du GIGN ?» Ah, je suis tombé sur le cul un peu, parce que Je me suis dit, quand même, un gamin de cet âge-là, comment il me connaît? Et en fait, c'est des gamins, ils ont entendu parler, ils ont regardé les reportages. Puis maintenant, sur Internet, c'est facile. Hein. Et régulièrement, oui, il y a des gens qui me reconnaissent dans la rue. Bon, ça me fait toujours bizarre, parce qu'après 30 ans, je dis, bon, les gens, bon, ils ont oublié, quoi. Et ben non. Si je croisais un jeune aujourd'hui qui a envie de faire la même chose que moi ou de rentrer dans l'armée, eh ben, je dirais, suis ton rêve, vas-y, bats-toi. Et voilà, tu as une carrière magnifique. Je te souhaite la même carrière que moi, d'ailleurs. Parce que je pense que j'ai eu la chance d'avoir une très belle carrière.